Think Tank.
Zellnostik, Reflexion, Sport und Staatsbürgerschaft.
Sport a Obtiensti.
Euradio Nantes vous présente Sport et Citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne.
Bienvenue sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du Think Tank Sport et Citoyenneté. Aujourd'hui, nous aborderons le thème des femmes et des discriminations dans le sport. Cette émission sera animée par Juliane Jappert, directeur du Think Tank, et moi-même chargée de communication. Nous recevons comme invitée sur le plateau Annie Sugier, présidente de la Ligue internationale des droits de la femme et membre du comité scientifique de sport et citoyenneté, Françoise Sauvageau, vice-présidente du comité national olympique et sportif français et également présidente de la Fédération française d'éducation physique de gym volontaire. En plateau, aussi parmi nous, David Felippo, journaliste sport à 20 minutes sur Nantes. Notre championne Valeria Ejas, capitaine de l'équipe de volleyball de Nantes et internationale hongroise. Et Carole Ponchon, chef de projet européenne pour le Think Tank Sport et Citoyenneté.
Merci Inès pour cette belle présentation et pour ce beau plateau, une thématique j'espère qui va intéresser nos auditeurs. On va essayer de se poser plusieurs questions. Comment permettre aux femmes l'accès au sport pour tous? Quelles solutions proposer pour démocratiser la pratique féminine et la reconnaissance du sport de haut niveau féminin? Alors tant au niveau du salaire qu'au niveau médiatique. Quelles préconisations pouvons-nous faire pour les JO de Londres 2012 ou encore quelle place accorder aux femmes dans les instances dirigeantes. On va essayer d'aborder ces sujets, peut-être avec polémique, et puis essayer de voir s'il y a des vraies solutions aujourd'hui que l'on peut envisager. Ces grandes questions autour de quatre grandes parties. Une première partie autour du sport pour tous. Est-ce que aujourd'hui il y a des femmes en France et en Europe qui n'ont pas accès au sport? Une seconde partie plus sur le sport professionnel, où on abordera cette question des salaires en particulier. Une troisième partie sur l'accès aux postes à responsabilité pour les femmes. Et là, on est un peu terrorisé quand on regarde les statistiques, les pourcentages. 17% des membres du CIO sont des femmes. À l'échelle européenne, on remarque que c'est pas mieux, voire même pire. En France, moins de 10% des entraîneurs nationaux, 4% des directeurs techniques nationaux, 5% des administrateurs. Je me souviens la dernière réunion au Comité national olympique et sportif français avec tous les présidents de fédérations. J'ai pris peur de voir un petit peu un stéréotype de président d'un certain âge, des hommes évidemment, et avec un passé sportif qui devait être bien loin d'eux. Nous avons pour commencer Carole Ponchon. Carole Ponchon, c'est la personne chez Sport et Citoyenneté qui s'occupe de cette question et qui s'occupe d'un réseau européen sur le sport et les femmes. Bonsoir Carole.
Bonsoir Juliane.
Carole, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'objectif et le sens de votre réseau?
Alors, le point de départ, ça a été en fait un constat que vous avez très bien dressé, c'est la trop faible participation des femmes tant dans la pratique que dans les postes à responsabilité dans le domaine du sport. Et du coup, c'est cette impossibilité de se contenter de ces 37% de femmes actives sportivement parlant en Europe, et même et encore moins des 11% de femmes au conseil d'administration des 52 fédérations sportives européennes. Et du coup, l'idée directrice du réseau, c'est de s'intéresser à la médiatisation du sport féminin comme levier sur les deux problématiques qu'on a pu citer, c'est-à-dire la pratique, le faible niveau de pratique des femmes, et puis l'accès aux postes à responsabilité.
C'est une réalité ça, Carole? C'est-à-dire par exemple quand Laure Manoudou est médiatisée, il y a réellement derrière plus de jeunes filles qui vont se licencier à la fédération de natation par exemple?
Ça a été vraiment prouvé l'impact de la médiatisation et des grandes figures de proue, des role models, comme on dit en anglais, de ces personnes qui, finalement, les citoyens, hommes ou femmes d'ailleurs, peuvent s'identifier à ces personnes et avoir envie de pratiquer un sport. Et puis l'intérêt d'aller vers plus de médiatisation, c'est aussi plus de sport et différents sports, et montrer que le sport, c'est pas uniquement ce qu'on voit à la télé ou qu'on peut avoir à l'école, ça peut être d'autres sports qui peuvent être plus confidentiels pour l'instant et qui méritent une meilleure couverture.
Alors concrètement, Carole, dans ce réseau, vous avez des profils différents, j'imagine des représentants des médias, Eurosport, l'UER. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et concrètement, est-ce que vous pouvez donner un calendrier et peut-être un objectif pour ce réseau?
Alors, au niveau des participants, exactement, les profils sont vraiment variés. Ça va des autorités publiques. On a comme marraine de ce réseau une députée néerlandaise qui est très investie sur les questions de sport et en particulier de lutte contre les discriminations. C'est Madame Boskoort. On a aussi des personnes de la société civile comme Raija Matila, qui est la directrice, la chef du réseau international de travail sur les femmes et le sport. Et puis, on a également des représentants des médias comme l'UER, donc l'Union européenne des radios et télévisions. Et puis, on a également, par exemple, on va avoir l'équipe, on va avoir Eurosport. Et
on va les mettre face à leurs responsabilités.
On va les mettre, face à des scientifiques qui vont leur démontrer par des études qu'il y a un potentiel sous-développé, qu'il existe une vraie demande et qu'en plus, c'est aussi un devoir citoyen aussi, finalement.
Merci,
mais
Carole.
Surtout, il y a un intérêt, voilà.
Merci beaucoup, Carole. Ce réseau va se réunir en Suisse, à Nyon, accueilli par l'UFA. En plus,
voilà,
ça va être assez symbolique, puisque j'imagine que le foot féminin va peut-être servir de figure de proue pour changer certains comportements. Merci beaucoup, Carole. Bonne chance à ce réseau. Nous avons aussi parmi nous la chance, le plaisir d'accueillir Annie Sugier, présidente de la Ligue internationale des droits de la femme. Bonsoir, Annie. J'espère que vous allez bien. On va essayer de voir avec vous la réalité des discriminations envers les femmes. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il est difficile pour une femme d'accéder à la pratique sportive?
Je trouve que c'est assez intéressant de voir ce qui s'est passé au Sénat l'année dernière avec toutes les auditions qui ont eu lieu sur le sujet. Et l'expression qui a été utilisée par Madame Michèle André, présidente de la délégation femmes au Sénat jusqu'à la fin de l'année, elle dit que c'est un miroir grossissant des inégalités entre les hommes et les femmes dans la société. On aurait pu espérer que le sport aurait été au contraire un leader pour casser les stéréotypes et tirer les femmes vers le haut. Et c'est tout à fait le contraire.
C'est pire dans le sport qu'en politique, alors, par exemple, Annie.
C'est pire, en effet, puisqu'on doit avoir 18% de femmes au Parlement et on est plutôt en dessous des 10% pour la présence des femmes dans les instances dirigeantes sportives. Alors que, en 1995, le Comité international olympique avait fait connaître une décision à l'adresse de tout le mouvement olympique pour demander qu'à partir de 2005, il y ait au moins 20% de femmes. Donc, lui-même ne s'applique pas ces règles, puisqu'il y a une seule femme dans la commission exécutive du Comité international olympique, qui est le lieu des grandes décisions, tout de même, ou des préparations des grandes décisions, et que le comité d'organisation des Jeux olympiques de Londres, sur 19 membres dans leur board, il n'y a qu'une femme, la princesse Anne d'Angleterre. Vous ne pouvez pas faire moins. Donc ça, c'est vraiment une réalité. On peut dire que c'est le plafond de verre. Mais vous avez évoqué dans la première partie de votre réflexion de ce soir les femmes qui sont encore plus discriminées que d'autres. C'est-à-dire que on a par exemple dans les zones qu'on dit difficiles, dans les quartiers, dans les cités, une ségrégation supplémentaire. Si vous prenez je ne veux pas vous inonder de chiffres, mais celui-là est important.
Non, mais il faut aussi des études pour comprendre la réalité du phénomène.
C'est l'étude de Brigitte Dédier qui disait que pour les filles de l'ordre de moins de 15 ans, dirons-nous, il y a 51% qui déclarent pratiquer un sport, alors que dans les zones difficiles, les quartiers difficiles, c'est 32%.
Alors c'est quoi les raisons, Annie, réellement? Parlons sans tabou.
C'est des raisons culturelles. C'est-à-dire qu'il y a un modèle culturel dans les cités et des pratiques religieuses qui font que quand la jeune fille approche des 13-14 ans, eh bien, on lui fait comprendre qu'il ne faut plus qu'elle accepte la mixité. Donc, au fond, c'est vraiment un modèle de société sur lequel il faut maintenant se prononcer. C'est-à-dire, est-ce que nous voulons une société mixte ou est-ce que nous voulons une société de la ségrégation ?
Alors oui, effectivement, c'est un modèle de société sur lequel il faut réfléchir. Mais est-ce qu'Annie, vous avez des pistes quand même concrètes, des actions qui pourraient être menées pour aller contre ces chiffres et cette étude qui est un peu affolante ?
Cette étude qui date de 2004 et dont on espérait qu'elle soit réactualisée. Écoutez, pour reprendre ce qu'a dit Thierry Maudet, qui est directeur général de l'INSEP, interrogé par le Sénat, il a dit, d'une manière générale, mais c'est vrai pour ce qui se passe dans les cités, et c'est vrai d'une manière générale pour les femmes et le sport, « Je ne pense pas que les choses évolueront toutes seules par elles-mêmes ». Donc, s'il n'y a pas, d'une part, une volonté politique des pouvoirs publics et du mouvement sportif, et d'autre part, une volonté de se battre de la part des femmes et des sportives elles-mêmes, je pense que les choses n'avanceront pas. Je n'ai jamais vu une volonté politique qui vienne s'il n'y a pas des actions de la part des principales intéressées. Je veux dire, sans les syndicats, sans la pression des syndicats, est-ce que vous pensez que les patrons tiendraient compte de la situation des ouvriers ?
Merci beaucoup Annie, on va parler un petit peu plus en profondeur de cette question et puis aussi du sport de haut niveau dans une seconde partie. Mais avant, nous allons faire une petite pause musicale avec Anna Salazza qui va nous chanter « La vida es rosa, la vie en rose ».
Su risa siempre entre sus labios, sus ojos me impiden mirar. Nada quiero yo cambiar del dueño de mi sentir. Cuando me viene a abrazar, empiezo a susurrar. Vivo la vida en rosa. Me dice. Saben dónde está la risa, toma su lugar feliz hasta morir. Cuando me viene a abrazar, empiezo a susurrar, veo la vida en rosa. Me dicen palabras de amor que rompen el dolor, que me hacen sentir no sé qué cosa.
Sport et citoyenneté.
Bienvenue sur l'émission du Think Tank Sport et Citoyenneté. Nous étions, après cet intermède musical espagnol, sur radio, évidemment, une radio européenne, en train de parler avec Madame Annie Sugier, présidente de la Ligue internationale des droits de la femme, membre du comité scientifique de sport et citoyenneté, de l'accès au sport pour les femmes, l'accès au sport pour tous, mais aussi, Annie, des problématiques pour les sportifs de haut niveau dans l'accès au sport et en particulier pour les Jeux Olympiques, on n'est pas encore à l'égalité là aussi.
On n'est pas encore à l'égalité. Il y a un pas important qui a été franchi puisque aux Jeux Olympiques de Londres, on aura le même nombre de sports pour les hommes et pour les femmes avec l'arrivée de la boxe féminine. Mais c'est une égalité apparente puisqu'en réalité, on a toujours moins d'événements pour les femmes que pour les hommes, donc beaucoup moins de médailles distribuées pour les femmes que pour les hommes, parce que on ne veut pas regarder la totalité des choses. On se rend compte qu'il y a toujours des restrictions. Prenez le cas de la boxe, eh bien, il y aura trois disciplines pour les filles, trois catégories, et il y en aura six pour les garçons. Prenez le cas de la médaille d'or qui est donnée aux marathoniens par le président du CIO, parce que c'est le cœur de l'olympisme, parce que c'est la dernière discipline, c'est juste avant la cérémonie de clôture, mais on ne le donne pas à la marathonienne.
Alors, vous avez quelques revendications, Annie, que vous portez justement et que vous avez portées auprès de Jacques Roque, du président du CIO. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, les sept impératifs que vous portez?
Alors, on a donc sept impératifs. Trois qui concernent ce que j'appelle la discrimination ordinaire, le plafond de verre, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas le même nombre de médailles pour les hommes et pour les femmes. Ensuite, le fait que la fameuse directive des 20% dans les instances dirigeantes n'est pas appliquée. Que ce que je viens de dire à propos du marathonien et de la marathonienne, donc ça c'est la discrimination classique, mais pour autant on n'en vient toujours pas à bout. Et puis il y a ce que j'appelle la véritable ségrégation, ce qu'on commence à voir dans nos quartiers, mais qui naturellement existe en plein dans des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou autres, des pays qui n'ont jamais envoyé de femmes. Il y a aussi le fait que la règle 51 qui interdit toute expression politique ou religieuse n'est pas appliquée quand il s'agit des sportives qui sont couvertes de la tête aux pieds par le voile islamique. Vous avez le fait que le CIO apporte sa caution aux jeux de la ségrégation qui sont organisés tous les 4 ans par l'Iran. Et puis enfin, tous les stéréotypes, je pense que Carole Ponchon parlait à juste titre de l'importance des rôles modèles, eh bien les jeux ne sont pas là pour véhiculer des images soit trop sexuées des femmes avec des costumes qui sont trop mettant en évidence les formes féminines, alors qu'on oublie que la sportive n'est pas là pour montrer ses formes féminines, mais pour...
Alors justement, Annie, je vous coupe, on a bien entendu ces revendications. On a la chance d'avoir avec nous, autour de la table, une internationale hongroise de volley. Valéria, quand vous entendez tous ces problèmes sur l'accès au sport pour les femmes, même pour les sportives de haut niveau, est-ce que vous avez ressenti, vous, dans votre carrière, est-ce que vous ressentez aujourd'hui de tels problèmes? Est-ce que vous sentez que vous êtes discriminé? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes, comme le dit Annie Sugier, une marchandise qui pourrait, si on réduisait la taille, par exemple, de vos vêtements, être plus médiatisée?
Oui, c'est vrai que j'ai ressenti ça en étant jeune plutôt. Mais maintenant, dans la dans cette siècle, je pense qu'on a arrêté couper et shortir encore les shorties et on se concentre plutôt à la performance. Donc, s'il y a plus de monde qui va voir un match des hommes en volée, c'est plutôt pour le spectacle parce qu'ils attendent la puissance, ils attendent la vitesse Et c'est vrai que généralement parlé, il y a au moins 300 personnes qui regardent match de garçons que des filles.
Et en tant que sportive, Valéria, est-ce que ça vous choque, par exemple, qu'il y ait des sportifs qui viennent voiler aux Jeux Olympiques ou qu'il y ait des délégations de certains pays qui n'envoient pas de sportives, c'est-à-dire qui n'envoient que des hommes aux Jeux Olympiques? Est-ce que c'est quelque chose, en tant que sportive et en tant que femme, qui vous choque et qui vous donne envie de réagir?
Oui, bien sûr. Je pense que l'accès du sport, c'est très, très important. Après, il faut de volonté. Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce qu'elles jouent? Est-ce qu'elles ont le droit de jouer quand même, de se réunir dans une salle, même en étant habillées? C'est ça la question pour moi importante. Est-ce qu'elles peuvent encore pratiquer le sport entre elles ou c'est complètement... Hors de loi dans ces pays.
Annie, c'est une bonne question ça quand même. Est-ce qu'il vaut mieux qu'elles fassent du sport, qu'elles aient accès au sport voilées, c'est-à-dire c'est un choix quand même, c'est une liberté d'être voilée. Ou alors est-ce qu'elles n'auraient pas du tout accès au sport si elles ne pratiquaient pas dans ces conditions?
Alors je vais vous parler d'abord de l'Arabie Saoudite qui est tout de même le cas le plus évident, c'est-à-dire qu'en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de faire du sport à l'école et au collège, et que si elles en font, c'est dans des clubs privés, c'est payant, etc. Donc le président du Comité national olympique d'Arabie Saoudite, qui a subi des pressions du Comité international olympique pour envoyer des femmes, a répondu que de toute façon ça le dérangeait pas, s'il était obligé il en enverrait, qui sont formées à l'étranger. Donc ça revient à dire que ça n'aura aucune valeur pour développer le sport féminin en Arabie Saoudite. C'est donc totalement choquant. Bon, ça c'est une première question. La deuxième, c'est la question du port de signes religieux à l'intérieur du stade olympique. Alors là, il y a aussi deux réponses, c'est-à-dire que ces femmes-là sont handicapées par leurs vêtements et donc elles vont perdre, et tout le monde s'en fout qu'elles vont perdre. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point...
Oui, mais elles vont pratiquer du sport quand même, Annie.
Oui, mais est-ce que... Je reviens à une deuxième question, c'est la question de la loi. Que ce soit le président Blatter, que ce soit le président du Comité international olympique, ils nous disent que la caractéristique du sport, c'est qu'il y a une loi unique. Comment se fait-il que c'est quand il s'agit des femmes que tout d'un coup, on est dans le compassionnel et on ne se pose pas la question de quelles étaient les valeurs qu'il y avait derrière la loi unique? Regardez ce qui s'est passé à Port Saïd. Il y a eu 76 morts parce qu'on a fait de la politique dans le stade olympique, dans le stade. Est-ce que le stade est un lieu pour faire de la religion et de la politique?
Oui, à l'origine, non. À l'origine,
alors,
non.
Eh ben, il faut se poser la question.
Mais l'origine, donc, mais Annie, on est d'accord que l'origine des valeurs olympiques, on en reparlait cet après-midi avec Pierre de Coubertin. À l'origine, le sport était fait pour les hommes blancs.
Ça n'est pas la question. Il y a des valeurs universelles qui ont fait qu'on a exclu l'Afrique du Sud pendant 30 ans parce qu'elle pratiquait l'apartheid. Il y a eu un moment, au bout d'une dizaine d'années, où l'Afrique du Sud a proposé d'envoyer dans sa délégation des Noirs et des Blancs. Et le CIO a refusé car il considérait qu'il était inacceptable qu'il y ait l'apartheid en Afrique du Sud. Donc ces pauvres Noirs à ce moment-là, qui auraient pu faire du sport malgré tout, ils ont été sacrifiés à une cause qui était plus grande, qui était celle de la mixité noir-blanc. Est-ce que la cause de la mixité homme-femme serait inférieure à celle de la mixité noir-blanc?
On vous suit, Annie, et vraiment, on vous supporte, on vous soutient dans cette cause. On va parler maintenant un petit peu, pour rester dans le sport de haut niveau, de la question des salaires, avec là aussi hein, des vraies discriminations entre les hommes et les femmes, peut-être, avec quelques exceptions. On sait aujourd'hui que dans le tennis...
Parce qu'elles se sont battues, c'est ça la clé du problème.
Parce qu'elles se sont battues et aussi parce qu'il y a eu des prises de position des fédérations du mouvement sportif.
Les fédérations n'ont pris des positions que parce que les sportives elles-mêmes se sont battues.
Valérie, il faut se battre pour gagner plus d'argent. Ça veut dire quoi?
Oui et non.
Vous gagnez moins d'argent que vos garçons qui pratiquent le volley. Ça, c'est sûr.
J'ai pas trop information des salaires chez les hommes, mais si je pense comme une femme, si on voit bien dans notre société quand même, demande que c'est les hommes qui soutiennent la famille. Et si un homme gagne plus pour soutenir sa famille, ses enfants, moi je suis d'accord.
D'accord, mais
oui,
vous...
Il y a combien de familles monoparentales? Et de toute façon, il n'y a pas de raison de dire que c'est l'homme qui apporte l'argent. Regardez le chômage qu'il y a à l'heure actuelle, et les hommes sont bien contents d'avoir leurs femmes qui gagnent aussi de l'argent. Donc, c'est dépassé cette notion de c'est l'homme qui est le chef de famille et qui apporte l'argent.
Valérie, qu'est-ce que vous répondez à Annie là-dessus?
Oui, vous avez raison.
Vous faites la même chose, vous faites le même sport, vous avez les mêmes compétitions, vous avez les mêmes efforts physiques, vous avez le même entraînement, et au final, on le sait, le sport féminin, les sportives sont moins payées que les sportifs. Est-ce que c'est pas quand même révoltant aujourd'hui?
Oui, il faudra équilibrer, bien sûr, les salaires. Et si on parle de volley, déjà, il y a 14 équipes en pro chez les hommes, il y a 12 chez les filles. Donc, si on voit, déjà, c'est pas le même nombre de matchs qu'ils jouent. Mais au niveau d'entraînement, au niveau de force donnée, c'est équilibre, oui.
David, est-ce que, alors, vous représentez aujourd'hui un journaliste sportif d'un grand média connu, 20 minutes. Quelle est votre opinion sur cette différence de salaire entre les sportives et les sportifs? Alors, on parlera dans la quatrième partie de la médiatisation qui est directement liée, mais si vous aviez un sentiment spontané à nous donner.
Non, mais de toute façon, c'est un cercle vicieux. C'est, s'il n'y a pas de médiatisation, il y a moins de public. Il y a moins de public, donc il y a moins de sponsors. Et donc, les clubs ont moins d'argent pour payer leurs sportives. Mais par exemple, le cas de Nantes, en volley, je ne pense pas qu'il y ait énormément de différence entre les volleyeurs et les volleyeuses, finalement.
Écoutez, moi, je peux vous donner les chiffres qui ont été donnés devant le Sénat. Je prends le basket professionnel et le handball professionnel. Hein. Déjà, c'est rare qu'il y ait des professionnels, mais enfin bon. Les hommes gagnent en moyenne 9 700 € net par mois et les femmes 3 600.
En France ?
En France.
Et moi, si je peux reprendre les chiffres sur le volleyball, les volleyeurs, en gros, en moyenne, gagnent 3 000 € net, quand une femme en gagne à peu près 1 700.
Donc, on a quand même. Le handball, c'est 5 200 pour les hommes et 2 300 pour les femmes.
La différence est quand même notoire. Là, oui.
Naturellement. Et en moyenne, c'est 10 fois moins. Ça, là, j'ai sous les yeux le rapport du Sénat.
David, on est encerclé là. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça?
Mais je vous dis, c'est
dans la vie professionnelle, il n'y a pas question de médiatisation et on gagne moins que les hommes. Donc, il y a un problème général.
Mais c'est les sponsors qui permettent, les sponsors privés qui permettent à ces clubs d'augmenter les salaires. Donc, ça vient de la médiatisation. On en parlera dans la dernière partie. Mais...
D'accord, mais sauf qu'actuellement, prenez le cas des clubs de foot, ils sont tous en train de se casser la figure parce que à force de trop payer les hommes, peut-être qu'il faut qu'ils se posent des questions aussi.
Peut-être... Oui, c'est vrai que c'est une autre question d'éthique, peut-être sur les salary cap. Merci beaucoup Annie Sugier d'avoir participé à notre émission. Nous allons marquer une deuxième pause musicale avant d'aborder la question aussi de l'accès au poste à responsabilité pour les femmes. Adele 21, Turning Tables.
Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only
we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. So I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you. You to just desert me. I can't give you all you think you gave me. It's time to say turning tables, to turning tables. Under haunted skies I see you. Ooh, where love is lost, a ghost is found. I braved 100 storms to leave you. As you try, no, I will never be knocked down. Well, I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. So I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you.
Sport et citoyenneté.
Bonjour Madame Sauvageau, bienvenue sur Euradio dans notre émission Think Tank Sport et Citoyenneté.
Bonjour Juliane.
On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes vice-présidente du CNOSF et présidente de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire.
C'est ça, vous avez raison, il faut prendre son souffle pour dire le nom de cette fédération, mais c'est vrai que c'est une vieille fédération qui depuis longtemps travaille dans l'entretien physique et l'activité physique pour le plus grand nombre, dans tous les lieux, à tous les âges de la vie.
Comment, ce qui intéresserait un peu nos auditeurs, c'est comment vous êtes arrivé à ces fonctions prestigieuses? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors en fait, bah c'est une histoire, j'allais dire, de continuité. C'est vrai que la chance que j'ai d'appartenir à une fédération qui est centrée sur l'entretien physique fait que cette question était une question qui était déjà une question de préoccupation féminine. Et dès les années 70, on s'est aperçu que dans cette fédération, un certain nombre de femmes se mobilisaient pour pouvoir développer cette activité sur les territoires, et donc devenait présidente d'association, présidente de comité départemental, parfois accédait à des fonctions de présidente de comité régional, et on a eu ainsi des présidentes fédérales, même dès les années 1980, ce qui montrait déjà une grande maturité dans cette fédération à un moment où la présidence de fédération n'était dévolue qu'aux hommes.
Oui, donc ça alors veut comment, dire... comment vous avez fait? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que vous avez dû vous imposer? Comment ont réagi les hommes face à cette prise de pouvoir?
Alors, c'est vrai que ça s'est fait dans notre fédération de manière assez naturelle. Là, le taux de féminisation de la pratique est quand même de 93%. Ce qui veut dire que les femmes se sont effectivement préoccupées de maintenir cette pratique, de faire qu'elle vive sur les territoires, et se sont logiquement attaquées à la question de la gouvernance des clubs et des comités départementaux. Là, ce n'était pas difficile. Les comités régionaux, dans les années 1990, c'est devenu un petit peu plus difficile, et la présidence de la fédération a été très longtemps trustée par un homme.
D'accord. Mais alors, cet aspect naturel là et qui va faire plaisir à beaucoup de femmes, est-ce qu'il était spécifique finalement à cette fédération? Parce que vous êtes quand même une fédération non olympique et ouais. on voit dans les fédérations olympiques aujourd'hui qu'il n'y a pas de femmes au poste ouais. de direction. Oui. Alors, ça s'est bien passé là, mais ailleurs, pourquoi ça ouais. se passe mal et qu'est-ce qui se passe?
Alors, on voit qu'en fait, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes, ou les ambitions, je ne sais pas quel est le terme qui est le plus propre. Il est évident que lorsque la place est occupée par des hommes dans des sports olympiques, où on est d'abord sur une tradition de compétition, qui est quand même l'apanage, là aussi, des hommes, et où ils se retrouvent dans cette démarche forte et prestigieuse de l'olympisme, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile aux femmes d'accéder aux responsabilités parce que les postes sont occupés. Dans une fédé non olympique, dans une fédé où effectivement c'est davantage l'intérêt de nos concitoyens qui est en jeu, et où il n'y a pas de question de médiatisation, eh bien, c'est plus facile d'accéder aux à ces responsabilités. Aujourd'hui, 10 femmes sont présidentes de fédération, aucune sur une fédération olympique.
Bon, alors on est quand même, Madame Sauvageau, face à une discrimination là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut faire des mandats plus courts? Est-ce qu'il faut imposer ça par des règlements? Est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de faire et de dire? Parce que évidemment, vous êtes aussi vice-présidente du CNO. Est-ce qu'il y a un plafond de verre pour être président, pour qu'une femme soit présidente du CNO ou présidente d'une fédé olympique?
Alors, moi je pense que mon approche personnelle, c'est effectivement montrer comment la complémentarité des rôles, comment hommes et femmes peuvent travailler ensemble pour le développement des pratiques. Et aujourd'hui, les approches que les femmes peuvent faire, en particulier sur les fédérations olympiques, où les questions du développement sont des vraies questions, j'allais dire, vitales pour la vie même de ces fédérations, peuvent permettre à des femmes d'apporter un certain nombre de réponses. Mais, la grande difficulté du jour, c'est que les postes sont actuellement occupés par des hommes. Et c'est comment laisser la place. Alors ça, c'est difficile, surtout dans les fédérations prestigieuses, où effectivement, j'allais dire, l'image est... Alors, je mets beaucoup de guillemets, le pouvoir conféré à un président de fédération olympique est relativement important. Vous évoquez le CNOSF. C'est vrai que pourquoi suis-je là dans un poste de vice-présidente? C'est parce que dans le cadre du projet qui a été déployé par le nouveau président, le président Masséglia, la place de la diversité des pratiques et de l'ouverture sur le sport pour le plus grand nombre et le sport santé a obtenu une place importante, ce qui n'était pas l'existant précédent. C'est une nouvelle délégation, c'est une nouvelle page qui est en train de s'écrire.
D'accord, donc on doit quand même rester optimiste et se dire bientôt qu'aux réunions des présidents de fédération, on n'aura pas ce stéréotype d'homme d'un certain âge président d'une fédération. On doit rester optimiste.
Alors pour ma part, je ne reste pas dans l'optimisme béat. J'ai fait en sorte qu'au niveau du Comité national olympique et sportif français, nous puissions engager, comme nous l'avions fait au niveau de l'Europe sur les programmes Wild et Enter, que nous puissions engager une action d'accompagnement formation de femmes, justement dans les mois qui vont venir, juste en amont des prochaines élections fédérales qui vont avoir lieu dans l'année post-olympique, de façon à ce que des femmes osent. Parce que le gros problème des femmes, ce plafond de verre que vous évoquez, elles en sont en partie responsables. Elles sont dans l'hésitation. Serais-je assez compétente?
Oui, vous avez raison. Oui.
Et il faut d'abord leur montrer que c'est accessible. Mais bien sûr qu'elles sont compétentes. Alors, bien sûr qu'elles peuvent apporter.
En quelques mots, Madame Sauvageau, une femme au poste à responsabilité, qu'est-ce qu'elle pourrait amener de différent qu'un homme?
Je crois qu'elle apporte un regard, une approche qui est plus attachée aux personnes, au respect, que sur l'aspect réglementaire, structurel, qui est souvent l'apanage des hommes. Je crois qu'elles apportent un regard sur la société, sur l'éducation, sur toutes ces questions. Je prends l'exemple du prochain séminaire mondial qui va avoir lieu à Los Angeles dans 15 jours, que le CIO diligente sur femmes et sport, et où, par exemple, la place de la femme dans l'éducation est est une place importante et nous allons travailler sur cette question du positionnement du genre. Hommes et femmes doivent ensemble apporter une complémentarité dans cette éducation et aussi permettre que les rôles soient des rôles partagés.
C'est clair. Alors peut-être un peu, hein, on va se recentrer un peu plus sur l'être, sur l'humanité, sur la citoyenneté, que certains hommes. Une phrase nous a marqué aussi dans votre belle interview dans notre dernière revue de Sport et Citoyenneté, où vous annoncez que la représentativité féminine française est encore plus faible à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale. Ça nous a un peu inquiété aussi. Des actions que l'on pourrait mener à l'échelle européenne, vous les imaginez comment ?
Alors c'est vrai que cette question est lourde de conséquences. Nous évoquions la semaine dernière en bureau exécutif au comité olympique le grand déficit de présence féminine au sein des instances internationales des fédérations olympiques. Et cet énorme déficit nous amène effectivement à un constat que je trouve dramatique, mais sur lequel j'attirais l'attention du président en disant que c'était logique dans la mesure où nous n'avons déjà pour l'instant pas de femmes présidentes dans ces instances nationales. Et comment faire qu'on puisse reconnaître la compétence, la légitimité de femmes au niveau international si à ce jour elles ne sont pas déjà inscrites dans les responsabilités nationales? C'est impossible.
C'est logique, on a bien compris. Merci beaucoup, le chemin est encore long, il faut rester vigilant. Merci beaucoup d'être intervenu dans notre émission et on va rester mobilisés, Sport et Citoyenneté, sur cette question à vos côtés aussi, n'en doutez pas.
Merci Juliane et puis bon courage. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Sport et Citoyenneté.
Inès Boutard, un coup de gueule.
Oui Juliane, effectivement, je souhaitais reprendre une intervention d'Atina Kyriakidou, qui est l'ancienne présidente d'European Women and Sport, qui disait donc dans un article issu de la revue Sport et Citoyenneté Femmes et Sport, « Il est certain que pour les femmes, il est beaucoup plus dur d'atteindre son but, car elles doivent sans cesse prouver de quoi elles sont capables. On attend tout de la femme, qu'elle soit une bonne mère, qu'elle soit à la maison, qu'elle travaille, qu'elle soit sportive. » Qu'en pensez-vous ?
Valéria, est-ce qu'on attend trop des femmes ? Elles doivent être tout. La mère, la femme, la sportive. Est-ce qu'on leur demande trop ?
Je pense que si on pourrait regarder dans l'état des femmes, on pourrait dire oui.
C'est quoi l'état des femmes ?
On est toujours en doute. On essaie de donner le meilleur dans tous les domaines. Comme vous avez dit, à côté de notre mari, copain, avec nos enfants, être parfaite à la maison, dans le foyer.
Et en même temps, être parfaite aussi sur le terrain pour vous. Alors, il y a une question aussi qui se pose après votre belle carrière. Quand vous entendez la vice-présidente du Comité olympique sportif français dire que c'est difficile pour les sportives, après leur carrière, d'avoir une reconversion dans des postes à responsabilité. Est-ce que vous pensez, par exemple, un jour avoir des responsabilités dans le monde du volley en Hongrie ou même peut-être en France, puisqu'on est dans l'Europe et il y a une libre circulation des travailleurs en Europe? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous sentez que ça va être plus dur pour vous?
Ça fait quelques années que j'en réfléchis plus en plus sur ma après carrière et c'était une idée dans ma tête de travailler, par exemple, de rentrer dans le CEV, c'est la Fédération Centrale Européenne, ou même dans la Fédération Internationale de Volleyball qui réside en Suisse. Je me suis renseignée, je parlais avec quelques personnes responsables et ils m'ont dit c'était dur. Déjà, c'est dur de y rentrer. Et après, on n'en parle pas comme autant étant femme, est-ce que ça peut être dur, mais je pense que ça serait pas mal de prendre l'exemple des États-Unis, parce qu'ils ont tellement peur aux États-Unis des universités, des entreprises d'être accusés avec la discrimination, qu'ils engagent de plus en plus de femmes.
Alors, vous avez vécu aux États-Unis, donc oui. C'est intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a des quotas qui sont mis en place? C'est-à-dire, est-ce qu'on oblige à ce qu'il y a des femmes qui prennent des postes à responsabilité? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'imposer des quotas, justement, dans la Fédération internationale de volley?
Pour donner un coup d'envoi, oui. Et après, ça peut, quelques années, peut-être, ça peut diminuer le niveau, parce que peut-être ils ont obligé d'engager des femmes qui sont pas aussi compatibles pour le poste, mais ça va donner aussi un aspect différent pour les jeunes, donc ça peut aider les jeunes de regarder aussi vers les domaines différents.
David de Filippo, quand on parle de quotas, ça nous rappelle une histoire récente, mais comment vous réagissez? Est-ce que ça vous fait hurler, cette histoire des quotas pour faire entrer des femmes dans les fédérations?
Ouais, c'est... Ça va pas me faire hurler, mais oui, je trouve ça un peu... Mettre des quotas, ouais, je trouve ça un peu bizarre quand même de mettre des quotas. Ouais, non, je... Vous pensiez à quoi quand vous disiez les quotas par rapport à la formation, par rapport au nombre, la polémique qu'il y avait eu sur les joueurs en centre de formation?
Exactement.
Ah, c'est ça,
exactement,
hein, vous parlez de ça.
Exactement.
Et on se souvient ce que ça avait fait. Alors, mettre des quotas pour les femmes, non, non.
Comment en tant que journaliste vous réagissez face à ce plafond de verre qui existe? Aucune présidente en France de fédération olympique.
Et c'est vrai que même au niveau local, nous on s'en rend compte pour les clubs nantais. Finalement, je crois qu'il y a une présidente à Nantes,
oui.
Au Nantes volley féminin. Oui. Et autrement, les clubs féminins sont gouvernés entre guillemets par des hommes. Et j'ai entendu tout à l'heure cette dame qui disait les femmes ont peut-être peur de s'engager, peur de ne pas être compétentes. J'étais un peu étonné d'entendre ça de la part d'une femme. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que c'est dommage. Je pense que on le voit lorsque Monique Bernard, la présidente du Nantes Volley Féminin, anime. Je trouve que c'est plein de bon sens lorsqu'elle prend la parole et ça apporte un autre regard, une autre vision. Ouais.
Merci beaucoup. Une dernière pause musicale avec Stacy Kent.
Mieux vaut ne penser à rien qu'une pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien de tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient. Déjà beaucoup, mais vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Sport et citoyenneté.
On continue le débat sur la discrimination envers les femmes dans le sport par le think tank Sport et Citoyenneté sur E-Radio. Et maintenant, nous allons aborder la question épineuse de la médiatisation et peut-être qui est même à l'origine de beaucoup d'autres problèmes. Pour cela, nous allons interroger évidemment un journaliste. Alors, David Filippo, pourquoi les médias accordent-ils si peu d'importance à l'actualité féminine dans le sport?
Alors déjà, je suis pas d'accord. Je trouve que sur un plan, alors je parle des médias locaux. Je vais prendre l'exemple de Nantes. Je peux parler de mes confrères de West France, de Presse Océan. Moi, je n'ai pas l'impression. Alors Valéria réagira. J'ai pas l'impression que l'on sous-traite le sport féminin. Nous, ce qu'on cherche, enfin notamment moi, c'est on parle des clubs de haut niveau. Lorsque les clubs féminins sont au plus haut niveau, on parle de ces clubs. Donc, il y a le Nantes Volley Féminin, il y a le Nantes Rezé Basket, et il n'est pas rare de voir les journaux locaux faire des têtes de page sur des clubs féminins. Les têtes de page, c'est des gros papiers en haut des pages. Vous voyez ce que je veux dire. Et il n'est pas rare de voir ça. Je dirais que le problème, finalement, il est plus au niveau des médias nationaux. Là, il y a un vrai souci, mais je pense que la presse quotidienne régionale, qu'on appelle la PQR, traite plutôt bien le sport féminin. Et c'est vrai que quand on compare, par exemple, au traitement accordé par l'équipe, le journal de l'équipe, hein, le premier journal national, là, en revanche, là, il y a une discrimination, et je suis d'accord avec vous, parce que c'est vrai qu'il y a très très peu de sport féminin dans les journaux nationaux, sur les radios nationales également. RMC Info, par exemple, qui fait beaucoup de sport, traite très peu le sport féminin, hormis des gros événements comme la Coupe du Monde de football féminin.
Voilà, alors la question qui se pose, c'est les footballeuses de l'équipe de France, et puis ailleurs aussi dans d'autres pays, on voit en Allemagne, c'est encore plus avancé. Est-ce qu'elles vont ouvrir le chemin vers une meilleure reconnaissance du sport féminin? Est-ce que vous y croyez à ça?
Ça fait un buzz sur le coup. Par exemple, je crois que Direct8, qui a diffusé les matchs, a fait des pics d'audience, hein, pour les matchs de l'équipe de France et également pour les filles de l'Olympique Lyonnais qui jouaient la Champions League. Direct8 a fait des pics d'audience. Après, est-ce qu'il y aura une continuité? Est-ce qu'il y aura des conséquences? Je n'ai pas l'impression. Je dirais que le souci, finalement, c'est que dans ces grands médias nationaux, ce sont des hommes qui sont à la tête de ces rédactions, les directeurs de rédaction, les rédacteurs en chef sont des hommes qui délaissent complètement le sport féminin.
Ça, simplement. Vous avez raison, mais peut-être aussi que les téléspectateurs, les lecteurs du sport en général sont plutôt des hommes, et c'est peut-être là aussi.
Alors,
le problème.
Alors, il y a effectivement ça. Je vois Valéria qui réagit, mais oui, il y a ça, effectivement.
Valéria, la semaine prochaine, l'équipe masculine de Nantes va jouer, et elle va être diffusée. Ça doit vous énerver quand même, non?
Oui et non. C'est bien que le volley est diffusé sur une chaîne nationale, mais quand même, oui, si je vois, je pense sur 10 matchs de masculin volley championnat pro, on parle pas de Ligue des Champions, championnat pro, sur 10, il y avait 2 matchs de filles de féminines diffusés au début de la saison, et depuis, on ne le voit pas.
Et alors, c'est ma chaîne sport qui va diffuser oui. Ce match. Valéria, Annie Sugier, qui était tout à l'heure avec nous, vous auriez dit, il faut s'énerver un peu là. Vous n'avez pas envie de vous énerver un petit peu quand même?
Oui, ça. C'est bien sûr, c'est dans la tête.
Parce que on en parlait tout à l'heure, la médiatisation entraîne les sponsors, entraînent les revenus pour les femmes, et c'est une sorte de cercle vicieux quand ça se passe pas, ou vertueux quand ça se passe. David, tout à l'heure vous faisiez cette réflexion, c'est les médias quand même qui sont à l'origine de ce problème, on est d'accord?
Ce sont les médias qui finalement, j'ai envie de dire, détiennent la clé de cette discrimination ou non pour les femmes dans le sport, c'est une certitude. Je voulais juste réagir pour bien défendre les médias locaux. Par exemple, la chaîne Télé Nantes a déjà diffusé l'équipe de volley féminin. Effectivement, ma chaîne sport va diffuser l'équipe masculine, mais la chaîne locale va diffuser, a déjà diffusé le volley, le club de volley féminin. Et je voulais dire autre chose, pour bien illustrer que ça vient de nos chefs à Paris. Par exemple, moi j'ai un exemple tout simple. L'équipe du Nantes et Basket s'est qualifiée en Coupe d'Europe il y a deux saisons. C'était historique. Il y a un journaliste nantais qui a fait le déplacement, parce que ça coûte à une entreprise de faire se déplacer un journaliste. L'équipe de hand de Nantes masculine a été européenne cette saison, est allée à Amsterdam. Il y avait 8 journalistes nantais. Et moi, très honnêtement, je sais que si j'avais posé, je n'ai même pas posé la question à mes chefs, mais si je leur avais dit, est-ce que je peux suivre le Nantes et Basket féminin en Europe, au Portugal ou je ne sais où, ils m'auraient dit non. Pour un club masculin, il n'y a aucun souci.
D'accord, donc le chemin est encore long. Annie Sugier évoquait tout à l'heure aussi la transformation de l'image des femmes pour attirer les médias. C'est vrai qu'on a cet exemple avec la campagne de Bourges sur le basket et les tangos qui a fait un peu polémique. Est-ce que c'est une solution, ça, de rendre la femme encore plus sexy pour justement faire venir les médias?
Mais je pense que c'est un atout. J'étais pas trop d'accord tout à l'heure avec la dame qui parlait de stéréotypes sexuels, qui allait un petit peu loin, je trouvais, parce qu'on l'a vu aussi avec l'équipe de Cannes et Annie Courtade que Valéria doit connaître, c'est la présidente du club de Cannes. Elle joue énormément là-dessus. Elle le disait dans l'équipe magazine l'autre jour, il faut qu'on soit présente partout, et c'est aussi un atout justement.
Mais là, on va quand même.
Non, mais il y a des limites. Oui, faut pas dépasser des limites.
L'image de la femme n'est pas une marchandise non plus.
Mais l'autre jour, les présidents de clubs nantais, de club féminin, et Monique Bernard, qui est présidente, en faisait partie, c'est une femme, parlait justement de ce spectacle, ce côté esthétique du sport, et qu'il fallait justement que ça devienne un atout. Donc même une présidente femme dit qu'il faut s'appuyer là-dessus, justement.
Oui, mais justement, moi je rebondis là-dessus sur le beach volley, par exemple, qui est un sport qui est vu, qui est aimé par le public, justement parce qu'on voit des jolies femmes qui jouent dans des petites tenues qui sont devenues de plus en plus petites au fil des années, limite des strings. Donc du coup, il y a une réglementation qui a été faite pour limiter la taille de la culotte. Donc aussi, il faut peut-être ne pas rentrer dans des abus dénuder complètement la femme pour qu'elle soit réduite à une marchandise.
Valéria, est-ce qu'à un moment, vous diriez stop pour médiatiser votre sport?
Oui, au niveau du beach volley, j'étais pas sûre si la taille était tellement réduite. Moi aussi, je pratique le beach volley pendant l'été. Je fais aussi également le tournoi international. Et j'ai bien aimé la taille. Il faut s'habituer. Ça aussi, une question de personnalité. Au niveau de salle, volley en salle, je pense qu'on a déjà réduit la taille autant. Et là, ça...
Mais on est d'accord, il faudra s'arrêter un jour quand même sur la limite de la taille.
Oui,
il faudra dire stop.
C'est plus au niveau de basket hand où il pourrait faire un plus d'effort, je pense, dans ce niveau.
Alors, il y a de vraies réglementations au niveau européen qui sont prises quand même dans ce domaine. Inès, est-ce que vous pouvez nous retracer, pour terminer cette émission, les grandes orientations juridiques et politiques prises en la matière?
Oui, tout à fait, Juliane. On peut citer 3-4... grandes étapes au niveau de l'Union européenne, notamment le livre blanc sur le sport en 2007, qui nous parlait des questions d'égalité entre les sexes dans toutes les activités liées au sport, ou encore les actions préparatoires dans le domaine du sport en 2009, avec 3 projets visant l'égalité des genres au niveau du sport aussi. Enfin, le groupe de travail de l'Union sur l'insertion sociale et l'égalité des chances dans le sport en 2010.
Voilà, on peut rester optimiste. Il y a des initiatives politiques qui sont prises. Sport et citoyenneté, en tant que think tank, veillera à ça et jouera son rôle. Merci beaucoup et à bientôt sur Euradio.
Sport a občanství.
Sport und Staatsbürgerschaft.
Euradio Nantes vous a présenté Sport et citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne. Pour plus d'informations et pour réécouter ce programme, rendez-vous sur euradionantes.eu.